Ceci est le compte rendu de la prédication du 14 mai 2017 qui n'a pas été bien enregistrée. Donc la prédication que vous entendez est faite dans mon bureau. Le 14 mai 2017, j'ai parlé du psaume 107. Dans le psaume 107, l'impératif donné par Dieu est « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours ». C'est un ordre divin, majeur, essentiel. Il nous réfère à Dieu directement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Voilà ce que Dieu a dit sur le Sinaï à Moïse. C'est un impératif pour nous aujourd'hui encore. Paul l'a dit, rendez grâce sans cesse. Jésus sans cesse allait dans la montagne et priait, louait son Père. Père, je t'ai toujours glorifié, glorifie-moi. Voilà donc la louange, c'est vraiment manifester de la reconnaissance à Dieu et en même temps avoir un cœur tout à fait donné à lui, avec le désir de le glorifier dans notre vie. Ce n'est pas une louange uniquement verbale, émotive, cultuelle, mais c'est une louange de tout l'être, c'est une offrande de soi. Ensuite, voici ce que dit le psaume. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Sachant bien que nous sommes à l'époque de David, il s'agit donc d'une prophétie parce que c'est beaucoup plus tard que Israël a été rassemblé de tous les pays. Verset 4, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Voilà donc une situation désastreuse, une situation de souffrance, où simplement Dieu a réuni ses enfants et les a délivrés. Du drame intérieur, de l'angoisse, bien sûr, de l'âme languissante. Rappelez-vous Jésus qui voyait la foule et qui la trouvait abattue et languissante. Et Jésus était ému, plein de compassion. Et puis il les conduisit par un droit chemin. Rappelez-vous que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Plus tard, dans le même psaume, nous voyons que une autre image est prise, non pas celle du désert, mais celle de la mer. Au verset 23, « Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de crainte, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête. » Ramena le calme et les ondes se turent, et se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Toutes ces prophéties se retrouvent aussi dans le psaume 93, 93, au verset 4, et Isaïe 51, verset 15. Et c'est une thématique extrêmement importante de la détresse d'Israël. Et nous voyons que dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, versets 22-25, Jésus est dans la barque et vient au secours de ses disciples qui vont périr sur la mer de Galilée. Et c'est bien sûr la même manifestation que dans le psaume 107 qui s'est passé pour les disciples, mais avec une chose qui est évidente, l'Éternel les conduisait au port désiré, donc Jésus s'est démontré et affirmé comme étant l'Éternel dans la difficulté majeure de ses disciples. Le peuple de Dieu est donc soumis à des épreuves tellement intenses qu'il est appelé à reconnaître la puissance et la majesté, mais aussi la fidélité, la prévenance, l'amour de son divin maître. Souvent dans la facilité, le peuple s'égare. Et donc, nous voyons que Dieu rappelle toujours les hommes. John Newton, un pasteur anglais qui avait été marchand d'esclaves, qui était commandant de navire, s'est converti lors d'une tempête où toute sa cargaison d'esclaves noirs et lui-même allait périr avec ses matelots. C'est un homme extrêmement dur, insensible à la misère des hommes, et qui a donné sa vie à Christ lors d'une tempête inouïe. tel que le psaume 107 la raconte. Et par la suite, cet homme a tout arrêté et est devenu pasteur. Et c'est lui qui a enseigné John Wilberforce, un jeune mandataire politique dans l'Assemblée nationale anglaise. Ce John Wilberforce a pu être soutenu par Newton toute sa vie, exhorté, a pu bénéficier de ses prières, de ses encouragements bibliques pour défendre la cause des esclaves et arriver à une loi qui abolissait l'esclavage. Vous voyez que l'épreuve est donc salutaire et qu'elle a amené des hommes à servir Dieu, à servir la justice de Dieu. La bonté de Dieu est un thème majeur, mais qui est souvent négligé. La bonté et la sainteté sont un en Dieu. Cela va ensemble. Et il n'y a qu'un seul bon, dit Jésus, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien sur la terre en tant qu'humain, en tant que fils d'Adam, qui soit bon. Nous savons bien dans Romains chapitre 3, versets 10 à 23, que l'homme est privé de la gloire de Dieu et que l'homme n'est pas bon. Nous savons bien dans le chapitre 2 de Jean que Jésus ne se fiait pas à l'homme, malgré qu'il le suivait après des miracles et des guérisons, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et donc, si pour Jésus l'homme n'est pas bon, il veut le transformer, il veut transformer ce cœur et le rendre bon. Et l'amour entre les disciples doit être aussi élevé, de la même qualité que celui de Jésus, que celui qui existe entre le Père et le Fils. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, on vous reconnaîtra ce signe. » Le véritable signe d'un amour total, d'une abnégation, d'une offrande de soi entre chrétiens, d'une solidarité, d'une fraternité réelle, est le signe vraiment d'une transformation intérieure divine. Parce que l'homme, le chrétien charnel, ne peut pas être bon et saint comme Dieu. Le chrétien spirituel peut être poussé par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, à devenir comme son maître. L'autre thème que nous retrouvons dans le psaume 107, verset 8, qui loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur de l'homme, donc ça c'est le premier thème que je viens de dire, c'est qu'il a, l'autre thème, c'est qu'il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Il est évident que l'homme est malheureux sans Dieu. L'homme n'a pas trouvé sa plénitude. Et l'homme ne trouve pas, ne trouvera jamais sans Jésus, son bonheur, le plérôme. Donc c'est pour ça que les hommes vivaient captifs, verset 10, dans la misère et dans les chaînes, autant morales, spirituelles que matérielles. Et pour arriver à une âme remplie, une âme rassasiée, il faut d'abord que le cœur charnel soit humilié, au verset 12. Et puis ensuite qu'il soit délivré par la puissance de Dieu. Nous savons que Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18 à 20, « J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. » C'est Jésus par son pouvoir qui rend un cœur altéré, assoiffé, un cœur malheureux, captif du péché, donne un cœur libéré, habité du Saint-Esprit. Donc la miséricorde de Dieu est extrêmement importante. Et Tite le dit, nous étions égarés, nous étions emportés par le péché, et Dieu dans son grand amour nous a envoyé son fils Jésus, et nous avons été régénérés par le Saint-Esprit. Tite chapitre 3, versets 4 à 8. La miséricorde de Dieu est toujours relative à sa souveraine élection. Il faut d'abord que Dieu choisisse, Dieu appelle, et puis que Dieu opère dans sa puissance, par le sang de Jésus. Et si Dieu n'opère pas par la puissance du sang de Jésus, l'homme alors reste sous sa colère. Cet homme reste sous la colère, ou cette femme, et Dieu exprimera sa justice, son rejet, sans rejet d'un cœur qui aime trop l'injustice et trop le péché, et qui ne veut pas venir à lui. La miséricorde est donnée de Dieu et accordée à tous les hommes qui se repentent. Jésus l'a dit, je ne rejetterai point celui qui vient à moi. Sachant bien que dans Exode, quand Moïse voit l'Éternel descendre de la nuit auprès de lui, et que l'Éternel crie le nom de l'Éternel, cet Éternel, c'est Christ. Il crie le nom de l'Éternel, il crie le nom du Père, il dit Dieu lent, plein de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté, qui bénit jusqu'à 1000 générations ceux qui l'aiment, et qui punit jusqu'à 3 ou 4 générations ceux qui commettent l'iniquité, et qui ne prend personne pour innocent. Voilà, la miséricorde de Dieu est 250 fois plus grande que sa colère. Si nous prenons 1004, nous faisons division. C'est pour avoir une image de la grandeur de la miséricorde de Dieu. Si la colère existe, ne dénaturons tout de même pas le cœur miséricordieux de Dieu. Sa colère est juste l'expression d'un grand principe de justice qui ne peut pas être altéré. L'action de grâce pour un fait à venir est très importante. Il n'est pas toujours nécessaire d'attendre que Dieu ait agi pour rendre grâce. Au verset 21, voici, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Et nous voyons bien que Jésus, lorsqu'il va tout près du tombeau de Lazare, il dit « Père, tu m'as déjà exaucé ». Et puis il rend grâce à Dieu et ensuite il dit à Lazare de sortir du tombeau. Si Jésus est allé à la croix et est mort sur la croix, c'est parce qu'il savait déjà qu'il serait glorifié et exaucé, qu'il ressusciterait. Donc l'action de grâce n'est pas toujours postérieure au fait divin, à l'intervention de Dieu. L'action de grâce doit être quelque chose de continuel. C'est l'expression d'une confiance totale dans la personne divine. Et si au verset 2, nous voyons que les rachetés reviennent dans leur pays de tous les horizons, le retour des Juifs sur la terre d'Israël n'avait pas encore eu lieu. Et déjà, nous voyons que le prophète David rendait grâce. Des versets 4 à 14, nous voyons autre chose. Il est évident que la nature pécheresse de ce peuple est bien décrite. Il a fallu humilier le cœur, au verset 12. Et ils avaient des angoisses, non seulement à cause d'une situation dramatique, mais à cause de leur nature pécheresse. Et la nature pécheresse engendre l'angoisse. Nous le voyons bien dans Romains chapitre 2, angoisse et tribulation sur l'âme du pécheur. Donc le brisement de la nature de péché, le brisement de la nature humaine pécheresse, notamment en Israël, mais pour tous les hommes aussi, est évident, ce brisement aura lieu pour tout le monde. Mais le pardon aura aussi, aura lieu, le secours divin aura lieu. Et là, David l'exprime dans ce psaume, et il rend grâce à l'avance. Il rend grâce à l'avance pour ce qui va se passer, pour le brisement, et pour le secours, et pour le pardon. C'est ainsi que nous avons aussi une attitude à avoir dans nos vies. Nous devons à l'avance remercier Dieu pour les épreuves, comme pour les exaucements, comme pour le pardon, pour son amour, et pour cette purification qui se fait en nous, cette sanctification. Nous participons aux souffrances de Christ, a dit Paul. La responsabilité incombe de toute façon aux pécheurs. En nous regardant les versets 16 à 18, nous voyons bien que nous sommes derrière des portes d'airain, de bronze. Il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et touchait aux portes de la mort. Donc nous voyons que les insensés, par la conduite coupable, leur iniquité s'était rendue malheureux. Donc nous avons une responsabilité, il faut aussi la reconnaître. Si un chrétien reconnaît la miséricorde de Dieu et a confiance dans sa grâce, il doit aussi reconnaître que dans ses égarements, il doit reconnaître aussi qu'il a une responsabilité dans son comportement. La grâce s'accompagne d'un appel à la responsabilité. Les actions de grâce ne permettent pas simplement de s'évanouir de notre responsabilité et de croire qu'on est angélique parce qu'on a loué Dieu. Nous devons combattre notre péché. Dans l'Épître aux Hébreux, il est clair, nous devons lutter jusqu'au sang afin que le péché ne nous séduise pas, ne nous endurcisse pas. Donc la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu doivent accompagner l'esprit de reconnaissance, l'action de grâce. La reconnaissance est un état moral, intérieur, spirituel, évident, pour le gracié, pour le justifié que nous sommes. Mais la responsabilité est aussi un état moral, spirituel, plus qu'évident pour le gracié et le justifié. Les versets 23 à 30, nous voyons aussi autre chose. C'est cet échec des marins, des gens spécialisés qui échouent dans la conduite de leur navire et qui vont sombrer. Et les apôtres ont connu cela. Les apôtres ont connu cela. Y a-t-il une église qui puisse dire que son avenir dépend d'elle-même? Y a-t-il un chrétien qui puisse dire que la réussite de sa vie dépend de lui-même? Pierre et Paul l'ont dit, nous ayons des sentiments modestes, nous n'ayons pas une opinion trop haute de nous-mêmes. Évidemment, beaucoup de choses le témoignent dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, versets 22 à 25, le psaume 93, 93, verset 4, le psaume 71, verset 20, 65, verset 8. Donc, faisons attention. Notre ligne de conduite est « c'est heureux les petits, heureux ceux qui s'abaissent, ils seront élevés plus tard ». Et c'est évident que l'action de grâce s'accompagne d'un état spirituel d'humilité et de dépendance envers Dieu et de lutte contre le péché. Un autre point qui me semble important dans ce psaume 107, j'appellerai ça le point D, c'est que le salut s'exécute par la parole divine. Il envoya sa parole, verset 20, et il est guéri, il les fait échapper de la fosse. La parole a une place importante dans la Bible. La parole, c'est le Christ. Le seul outil de grâce, c'est la parole. Le seul intermédiaire entre Dieu et nous, c'est la parole, c'est Christ. La parole s'est faite chair, elle habitait parmi nous, dit l'apôtre Jean. Ni la nature déréglée par le péché, ni Satan ne peuvent résister à la parole. Si nous nous confions dans la parole, et que nous sommes forgés tous les jours par la parole, que nous avons l'amour de la parole, nous recourons et nous retournons aux bénédictions promises par Dieu. Oui, le port désiré, la vie bénie avec Dieu, en Dieu, le port désiré, vient de la réception de la parole. Au verset 30, ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, l'Éternel conduit au port désiré. Mais, au verset 21, il faut faire attention, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, tout cela est relatif. Au verset 20, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. La parole a donc un rôle essentiel. La parole régénère, elle est permanente et divine. Et comme dit l'apôtre Pierre dans son épître, j'aborderai un dernier point, le point E, c'est une réflexion pour aujourd'hui. Il y a une heureuse issue pour l'Église de Christ, même si elle est relativement en mauvaise posture dans notre monde d'aujourd'hui. Les épreuves dans ce monde pour les élus s'intensifient. Dans beaucoup de pays, il y a des conversions, un grand nombre, des conversions profondes, qui résultent de l'appel de Dieu, de la grâce, pas seulement d'évangélisation de la part des radios et télévisions américaines et européennes. Ce sont les appels directs de Dieu, par sa parole, par son Saint-Esprit. Et cette Église peut avoir l'impression d'être abandonnée souvent dans ses épreuves. C'est une épreuve difficile, mais qui est normale, par laquelle il faut passer. Jésus lui-même sur la croix dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu l'a couronné de gloire. Dieu l'a approuvé. Ainsi pour l'Église qui accepte sa passion sur terre à l'image de son maître, cette Église connaîtra une heureuse issue. Sa robe blanche sera teintée de sang sera lavée par le sang de Jésus. Jésus sur croix a vaincu l'angoisse, cet abandon du psaume 22. Le brisement est lié à la foi. Il faut donc que nous retournions à une confiance totale. L'Église a une heureuse issue en Jésus-Christ, victorieux ressuscité. Amen.